Bonjour, bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver en ce lundi 23 avril pour cette 21e émission d'Oxyfoot, la seule émission radio qui vous parle du football amateur en Occitanie. Aujourd'hui avec moi autour de la table taulier de cette émission, Quentin Marais. Salut Quentin.
Salut Romain, salut tout le monde.
En forme ?
Toujours, toujours.
Léo Molinier est là aussi, en face de moi. Comment ça va, Léo ?
Salut Romain, bonsoir tout le monde, ça va très bien et vous ?
Bah ouais, ça va très bien aussi, je suis heureux de vous retrouver, comme je vous l'ai dit. Et on va retrouver aussi les podcasts de chaque émission sur footpi.fr. Évidemment, les oranges sont représentés aujourd'hui par un Xavier Bedos qui m'a l'air en forme. Salut Xavier.
En très grande forme, mais alors là, aujourd'hui, j'ai rien révisé, je vous l'annonce direct. Passé un week-end chez les choucroutes là-haut, j'ai pas eu le temps de réviser quoi que ce soit.
Vous étiez à Mulhouse ?
Voilà, c'est ça.
Hein ? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, d'ailleurs ?
Bon, pour aller voir quelques contacts et puis voilà, c'est tout.
Est-ce qu'on ferait pas une émission sur le football à Mulhouse ?
En Alsace ?
En Alsace.
Il faudrait prendre l'accent.
Vous l'avez pas pris là-bas ?
Non, et puis il parle à moitié allemand, donc ça sert à rien, même pas la peine.
Bon, on va s'arrêter là avec l'Allemagne, l'Alsace et Xavier Bedos. Et notre invité aujourd'hui, il est donc le 21e invité. Nous recevons un ancien joueur professionnel qui s'investit dans un club de notre région. Bienvenue dans Oxyfoot au président de l'ASPCR, le club de Portée-sur-Garonne, Nicolas Bayot. Salut Nico.
Bonsoir à tous.
Ça va ?
Bah, très bien.
Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va tout de suite passer aux résultats du week-end avec Quentin Marais. Et Quentin, c'est la rechute pour Rodez.
Eh oui, Romain, Rodez n'a pas confirmé sa victoire à Pau, défaite à domicile 1-0 contre Cholet. Alors à deux journées de la fin, le RAF est à 6 points du leader, le Red Star. 45 unités au compteur, comme les deuxièmes et troisièmes, Grenoble et Béziers, mais qui, eux, ont un match en plus à jouer. Donc pour le coup, ça se complique.
Xavier, là,
je pensais que c'était reparti de l'avant, mais la rechute immédiate pour Rodez, c'est...
On en parle tous les lundis, mais là, je pense que cette fois-ci...
Bah, c'est
la cabane est tombée sur le chien.
Ouais, dans la dernière ligne droite, en fait, ils ont un peu craqué, quoi. Et alors, je ne sais pas si c'est fini mathématiquement, mais c'est encore plus compliqué pour qu'ils puissent accéder au niveau supérieur.
Nicolas, vous avez suivi un peu
Obligatoirement. Ouais. J'ai passé trois magnifiques saisons là-bas, donc c'est décevant ces derniers résultats. Avec la victoire à Pau, c'est vrai que ça les relançait, ça les mettait dans le bon sens. Maintenant, voilà, la saison n'est pas terminée. Je pense que le public va répondre présent jusqu'à la fin, puisque là-bas, je crois que c'est vraiment bien reparti cette année. Et après, dans tous les cas, ça ne sera qu'une bonne expérience. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, ils étaient aux portes de la CFA2. Donc, il y a du très bon travail qui est fait par des amis à moi. Donc, je les félicite. Puis c'est un club qui travaille on va dire, il n'y a pas qu'une équipe première, il y a un gros travail qui est fait en amont. Donc voilà, ils ont des réserves qui sont costauds, des bons résultats dans chaque division. Puis ils ont aussi la D1 féminine à côté où il y a aussi des échéances. Donc voilà, c'est dommage, mais j'espère que ce n'est que partie remise.
Et vous qui, on peut le dire, supporter, en tout cas proche de ce club, est-ce que cette saison-là, c'est où ils vont finir peut-être au pied du podium, en tout cas ils vont louper la montée certainement pour peu de choses, est-ce que c'est une frustration, de la déception, ou finalement ils sont à leur place et c'est déjà beau ce qu'ils ont fait et il faut continuer à travailler là-dessus ?
Non, forcément, c'est de la déception. Quand on a été leader du championnat, quand on a eu peut-être 10 points d'avance sur le quatrième, à un moment donné, on ne peut pas ne pas avoir de déception. Maintenant, c'est sûr qu'en début de saison, si on leur avait dit qu'ils allaient faire ça, ils n'y auraient peut-être pas cru. Mais bon, après, comme je dis, il faut s'en servir. Je pense que c'est un groupe qui est assez nouveau. Ils travaillent depuis deux ans ensemble. Maintenant, je ne pense pas qu'il n'y a pas tout à changer. Sûrement qu'il y a certains joueurs qui risquent d'évoluer parce que ils ont marqué beaucoup de points et qu'à ce niveau-là, souvent, ça permet de franchir des paliers. Mais voilà, garder, je pense, leur ligne de conduite. Et puis voilà. Et puis Rodez, c'est un club qui pour notre région, doit jouer en Ligue 2 parce que c'est une ville de foot et qu'il y a les installations pour y jouer. Même si aujourd'hui, on sait que le stade Paul Lignon est trop vétuste. Donc, c'est aussi des problématiques politiques. Et là,
pour aller jouer à Albi éventuellement ?
Non, je crois que c'était même pas possible. Donc, je sais plus. En fait, je sais même plus où est-ce qu'ils auraient pu jouer. Mais non, c'est bien parce qu'on pose des problèmes donc aux politiques. Et puis, ce stade Paul Lignon, il a besoin d'une seconde jeunesse. Et puis voilà, quand il y a plus de 3-4 000 personnes qui viennent, on a besoin d'accueillir les partenaires dans des bonnes conditions. Et aujourd'hui, je pense que le Stade Paul-Lignon n'est plus, voilà, n'est plus aux normes.
Et vous en savez quelque chose, Quentin ?
Il y a une équipe aussi qui aurait pu perdre beaucoup, mais qui repart de l'avant. C'est Colomiers en National 2 qui est allé battre Monaco. D'ailleurs, c'est la seule victoire de la journée à l'extérieur. Donc, bonne idée.
Un match qu'ils ont joué au Stade Louis II, d'ailleurs.
Exactement. Les Colomériens qui se sont imposés 3-2. Donc, c'est une victoire cruciale puisque le leader Marignane a perdu chez le 3e Fréjus Saint-Raphaël. Ça s'est resserré en tête. Et donc, à 3 journées de la fin, les Colomériens qui sont encore 4e ne sont plus qu'à 2 points du leader. Donc, là aussi, c'est parfaitement jouable. Ils avaient beaucoup à perdre, mais finalement, ils sont bien remontés, à l'inverse de Tarbes qui continue d'être dernier puisqu'ils ont perdu 3-1 au Stade Bordelais. En National 3, on a la victoire de la Baie du TFC contre Narbonne, 1-0. Le carton pour Fabregue qui a battu Castanet, 8-2. Et Mende qui a battu Luzenac, 2-0.
Et statu quo chez les femmes, Quentin ?
Et oui, Romain, un match nul, un partout entre Albi et Rodez. Là aussi entre le 10e et le 11e au classement, c'était un petit peu le match de la peur. Eh bien, pour le moment, c'est toujours Albi qui garde un point d'avance sur Rodez.
En c'est futsal, un championnat très serré.
Oui, très très serré.
On a vu ça tout à l'heure.
Le quatrième peut encore descendre.
Ouais, donc, voilà. Donc c'est difficile.
Ça en dit long sur l'homogénéité du classement. En futsal, on a Bruguière qui s'est incliné à domicile 5-2 contre Toulon, alors que l'UJS garde espoir de se maintenir. Victoire 3-1 contre Béthune. Et au niveau régional, il y avait un match de rattrapage entre Pradines et Revel. Et c'est l'équipe haute qui s'est imposée 1-0. Un résultat qui enfonce un peu plus Revel. Tandis que dans la poule A, là aussi, il y avait un match de la peur en poule A en R2, puisque la Baie de Blagnac est allée battre Fonsorbe 4-1.
Une réaction, Xavier ?
On a chargé.
À Fonsorbe,
oui, à Fonsorbe. Il y a eu un gros renfort de 4-5 joueurs de National 3, donc là...
Bah c'est le jeu, hein. Non ?
Ça vous plaît pas, ça, non, c'est le jeu des équipes réserves. C'est-à-dire que des fois, ils ont une bonne équipe, des fois, ils ont une équipe à chier. Donc, forcément...
T'as pas pu renforcer avec
voilà,
les joueurs
nous on n'avait pas une équipe en National 3, donc et comme on avait des...
Et pourquoi vous n'avez pas chaussé les crampons, vous avez...
J'étais pas là.
On l'a vu.
Quand il est chaud, il est violent.
Oui, on l'a vu la semaine dernière avec Jean-Louis Fauré.
Cette photo a fait le buzz, on m'en a parlé pendant un petit moment d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Bon, voilà, donc 4-1 à la maison, oui. On avait un joker, on ne l'a plus. On a encore 4 points d'avance sur l'avant-dernier. À nous de prendre 3 points. Oui, j'ai dit on parce que. Voilà.
Merci. Non, Quentin, c'est pas fini. Il y a les demi-finales aussi. Enfin, on connaît les demi-finalistes.
On allait oublier Nicolas. Et oui, puisque le porté de Nicolas s'est imposé 1-0 contre Albi. La Baie de Rodez, justement, a battu Luc Laprimob 2-0. Frontignon est allé battre Bayard 3-2. Et Rousson est allé battre la Clermontoise 2-0. Ce qui nous donne en demi-finale porté contre Frontignon et Rodez contre Rousson.
Merci Quentin pour ce tour des pelouses hebdomadaires. Et justement, maintenant, on va se focaliser sur le match qu'a suivi Footpi avec Xavier Bedos. C'est justement ce quart de finale de Coupe d'Occitanie porté à lui. Et donc, on a avec nous le président de Porté. Donc,
le Xavier, Porté qui était au match. Alors, moi, j'ai eu des échos. Apparemment, il n'y a pas eu photo, puisque on connaît quand même quelques joueurs. Et il n'y a pas eu photo lors de ce match, puisque Porté a dominé. Je crois qu'ils ont concédé 2 ou 3 occasions, c'est tout. Et encore. Hein, donc il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Et pourtant, il y avait un niveau d'écart entre la DH et cette équipe de Porté qui évolue en DH1.
Hein,
voilà, la R2, pardon. Et, mais bon, comme quoi... Ben le premier, les équipes qui sont premières en R2 ont vraiment le niveau d'atteindre les
meilleurs. Il n'y a pas ce fossé pardon, qu'il peut y avoir par exemple entre la DH, moi, la CFA2, la R1 et la N3.
Non, moi, pour moi le fossé, il est, Romain, je pense que pour moi le fossé il est surtout de la DH à la National 3 où là, bon, il y a quand même un effectif à avoir, il y a quand même des bons joueurs. Mais après, entre Régional 1 et Régional 2, il n'y a pas spécialement de fossé. Pour les équipes qui jouent les 4 premières places en Régional 2, elles ont largement peut-être le niveau de jouer un R1 facilement.
Président, on peut revenir un peu sur ce match ?
Oui. Vous êtes, donc,
c'était satisfait, président heureux là ?
Ben forcément, non, on est très très satisfait, d'autant plus que ben, pour le club c'était une première déjà, il me semble, un quart de finale de coupe, anciennement Coupe du Midi.
Oui.
Donc, ben, la chance de recevoir aussi, parce que ce n'est pas négligeable.
Ça correspond à une finale de Coupe du Midi, si...
oui, quelque peut-être, part. Peut-être, ou une demi-finale.
Parce que deux équipes, ouais, c'est compliqué de faire le parallèle.
Non, mais bon, c'est vrai que c'est super pour le club. C'est une année aujourd'hui exceptionnelle chez les seniors. Contre Albi, ben, on s'attendait à un match difficile, compliqué. Pour ma part, en tant que spectateur, ça ne l'a pas été à aucun moment. Une équipe d'Albi, pour moi, qui n'a rien proposé.
Décevant,
parce que bon, moi qui les ai connus à un très bon niveau en National 2, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu de peine de voir ce club à ce niveau-là, mais ils repartent de zéro, donc voilà, ils repartent avec leurs moyens, avec beaucoup de jeunes joueurs. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, ils sont sûrement à leur place en R1, au milieu de tableau. Et nous, on est aussi à notre place, je pense, avec une dynamique qui est positive, entre une équipe qui est sur une bonne dynamique et une équipe qui est, voilà, qui est en milieu de tableau, qui a plus grand chose à jouer. Ben, ça s'est largement vu. On a reçu, on avait l'avantage de recevoir un peu plus d'envie. Et puis après aussi, ben, quand même, une équipe de portée qui, depuis le début de saison, a des principes de jeu. Et qui, même si on n'était pas forcément dans un grand soir, ben, on a réussi à faire les différences, j'ai envie de dire, assez simplement, avec un jeu de passe courte, comme on a l'habitude, comme Sébastien Massas leur demande depuis deux saisons. Et voilà, on a marqué assez rapidement. Ben, le but, pour moi, représente vraiment la faiblesse du niveau, parce que notre joueur qui marque, il a un ballon profondeur.
Il est pas bon.
Il fait sa prise de balle, il trébuche presque sur le ballon dans la surface. Le défenseur ne peut pas intervenir. Il arrive à tirer, le gardien repousse, et donc repousse et boxe, ça lui revient sur la tête.
Ouais, c'est un but gag, mais ça peut arriver, on en a vu en Ligue 1.
Non, mais on va dire que ce n'est pas un but gag, c'est que c'est représentatif à un moment donné quand. Quand on est dans les 18 mètres, il doit y avoir une densité qui ne doit pas permettre à un joueur de quasiment tomber, récupérer le ballon, tirer, repousser par le gardien, et mettre la tête et marquer. C'est... Voilà. Après, c'est très bien parce qu'on a pu ouvrir le score. Mais...
Apparemment, il a joué au loto le soir même et il aurait gagné.
Après, on avait... Alors, au million. Après, sur le match, il n'y a rien à dire parce que les occasions franches, on les a. On a eu peut-être... vraiment trois face à face, on a tapé une ou deux fois les montants. Eux, ils ont une frappe qui est repoussée avec un joueur d'Albi qui est dans les 6 mètres, qui marque, et qui est l'arbitre assistant qui signale hors-jeu. Toujours la complexité de savoir s'il était hors-jeu au départ du ballon ou pas. Mais mis à part ça, on n'a quasiment jamais été en difficulté, si ce n'est sur coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté à 30-35 mètres, mais on a un très bon gardien avec Kevin Cotte dans les buts. Donc, à chaque fois, il a réussi à s'imposer dans les airs. Voilà, donc une bonne qualif. Et puis, ben, surtout, je suis content pour les joueurs. Je suis très content pour le coach et pour le staff parce que c'est quand même une super récompense. Et puis, sur cette Coupe Occitanie qui réussit bien au club puisque nos féminines sont en demi-finale aussi. Ils iront jouer à ON. Et puis on a nos U18 féminines qui ont éliminé le TFC et qui, en demi-finale, et qui joueront aussi la finale. Alors c'est Coupe du Midi peut-être sur les U18, sur les féminines. Donc, c'est des très très bons résultats chez les grands. Et peut-être qu'après on pourra parler du club en général parce que c'est quand même l'arbre qui cache la forêt par rapport au travail qu'il a effectué sur l'ensemble du club et notamment sur notre école de foot.
Quentin. Nicolas, le scénario tel que vous nous le présentez pour ce quart de finale, il atteste quand même d'une certaine force psychologique de votre groupe parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à rappeler des scénarios où on mène 1-0, on n'arrive pas à faire le break et au final on se fait piéger. Là, finalement, vous avez réussi à tenir le score. C'est à ce stade de l'année, surtout en quart de finale, c'est quand même quelque chose d'assez solide.
Oui, c'est sûr. Après, on n'était pas à l'abri. Hein. C'est sur coup de pied arrêté. Moi, j'avais surtout peur sur coup de pied arrêté parce que dans le jeu, je ne voyais pas vraiment comment ils pouvaient nous mettre en difficulté. Mais sur un coup de pied arrêté, il y avait un joueur là qui tirait bien le coup de pied arrêté chez eux. Et on n'est jamais à l'abri, comme vous avez pu le dire. Sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire. D'ailleurs, Albi n'a pas... n'a pas dit grand-chose, on va dire, après le match, si ce n'est que, bon, forcément, il y avait de la déception. Mais pas grand-chose à redire. Bon, les quelques personnes qui ont fait le déplacement ont forcément se sont un petit peu cachées derrière l'arbitre sur le but refusé, sur le hors-jeu. Mais bon, vraiment, c'était... voilà, il n'y avait pas besoin de ça, puisque leur équipe, elle était, malheureusement, elle n'était pas au niveau quoi, samedi soir.
Nicolas, on parle souvent, on a souvent parlé sur ce plateau avec nos différents invités, avec Quentin, avec Xavier et Léo. Une aventure en coupe comme celle-ci, que ce soit Coupe de France ou Coupe du Midi, Coupe Occitanie, dans un club, c'est vécu comment ?
Ben, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est vécu un petit peu avec beaucoup de distance, parce que, ben, par exemple, là, on avait essayé de faire passer le message pour faire venir les jeunes de l'école de foot sur le match, rentrer avec les joueurs, ramasseurs de balles, voilà. Mais bon, on a trois jeunes qui ont répondu présents.
C'est difficile de...
Donc aujourd'hui, très concrètement, c'est très très difficile de faire vivre un club.
C'est difficile d'investir les jeunes au parcours senior.
C'est difficile d'investir, de faire investir des gens dans un club, déjà. Donc après, forcément, ben, les jeunes, ils sont tributaires de leurs parents. Et les parents, le week-end, ben, ils ont d'autres préoccupations.
C'était les vacances scolaires, là, en plus.
C'est les vacances, il faisait bon. Mais je pense qu'ils ont d'autres préoccupations que l'équipe fanion d'un club. Après, encore faut-il communiquer, encore faut-il faire passer les messages. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on essaie. Mais il faut trouver d'autres choses. Il faut essayer d'animer autrement. Je pense qu'il faut réinventer ce football parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout attractif. Et puis après, ben, on a besoin aussi de médias comme vous pour relayer les informations et puis mettre en avant ce qui se fait de bien, mais dire aussi ce qui se fait de moins bien. Mais on a besoin d'un petit peu tout le monde. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'attractivité, il y a un gros déficit au niveau aussi du football en général. Et on va dire, en opposition, on va dire que le foot féminin aujourd'hui attire plus de monde.
Et c'est ce que j'allais vous demander justement. Est-ce que le foot féminin à portée ne va pas prendre le dessus à un moment donné sur le foot masculin ?
Non, mais après, on ne parle pas de dessus. Mais très nettement, aujourd'hui, notre équipe féminine déjà évolue au plus haut niveau. Donc malgré que, voilà, c'est forcément, il y a beaucoup moins de niveaux au niveau féminin. Mais en termes d'attractivité, on est à un seul niveau du second échelon national. Donc forcément, ça génère un intérêt.
Je crois que chaque année, vous êtes, vous jouez les phases finales pour.
On n'est pas très loin. Enfin, un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le club de Portée est à deux matchs aller-retour de recevoir l'Olympique de Marseille, de recevoir la AS Saint-Étienne, de recevoir le TFC, peut-être l'OGC Nice.
C'est quelque chose qui est inaccessible chez les garçons.
Mais chez les garçons, je veux dire, c'est même dans notre football régional. Aujourd'hui, notre football régional masculin, oui, on reçoit l'Olympique de Marseille, mais on reçoit les cadets. Mmh. On reçoit les 19 ans. Je veux dire, la Nationale 3, je veux dire, sans dénigrer le niveau. Mais quel intérêt, quoi. En termes d'attractivité, nous, ça pourrait être la belle histoire. C'est-à-dire le petit club de Portée-sur-Garonne qui reçoit l'équipe première de l'OM, de Nice, de Toulouse. Donc c'est un petit peu le pari que je prends. Et par rapport à ça, forcément que si notre équipe féminine atteint ce niveau-là, elle deviendra le porte-flambeau du club. Forcément, pour la première fois, on aurait une équipe qui pourrait évoluer au niveau national.
On a un peu dévié là du sujet, mais merci bon à Xavier et surtout à notre reporter Nicolas Bayou pour d'être revenu sur ce match. Et tout de suite, il est quelle heure ? Il est 19h48 et c'est l'heure de faire connaissance justement avec notre invité, avec Léo Moulinier. Léo.
Bonsoir Nicolas Bayou, vous allez bien ?
Bonsoir, ça va très bien, merci.
Nicolas, vous êtes donc né le 7 mars 1982. On va ensemble essayer de retracer votre carrière. De 1997 jusqu'à l'an 2000, vous jouez en junior au TFC. Donc, je voulais savoir comment vous avez réussi à intégrer ce club.
Ben déjà, en amont, j'ai eu la chance d'intégrer donc le centre fédéral de Castelmoro à 13 ans, donc préformation. Donc, j'étais la première année, je jouais encore à Tournefeuille, où j'avais passé 4 saisons. Et puis, du coup, la deuxième année, comme à Tournefeuille, on était en Honor League. On m'a fait comprendre qu'il était quand même mieux dans ma progression de jouer au niveau national. Donc Cugnot était en 15 ans nationaux et j'ai rejoint l'équipe de Jean-Claude Désiré où j'ai passé une très belle saison. Et puis la saison qui a suivi. Donc,
pour nos auditeurs, quand on est à Castelmaurou, on passe la semaine à Castelmaurou.
C'est ça.
Et on joue le week-end.
C'est 4e, 3e, c'est un sport étude. Et c'est la fédération qui a mis en place, en fait, qui a décentralisé donc, la pépinière de Clairefontaine pour aller un petit peu dans chaque région. Et voilà, donc c'est dès 13 ans, on s'entraîne tous les jours. Et puis le vendredi soir, on rentre dans son club, on rentre dans sa famille. Et puis on peut jouer. Donc de là, une chance énorme. Donc on a été la première génération. Donc on a ouvert, on va dire, ce centre à Castelmaurou. Où j'ai pu côtoyer donc, les plus connus. Donc c'était Philippe Mexès, Grégory Lacombe, avec qui j'ai terminé ma carrière aussi à Clermont.
Tu avais signé à Marsac, je crois.
Oui, qui était sur Marsac, je crois. Greg, qui a son centre de foot 5, Gold Soccer, à Albi, voilà, pour faire la publicité.
Et un très bon buteur de la tête, alors qu'il était assez petit.
Ouais, Greg, qui était un joueur qui avait beaucoup de talent. D'après moi, il a pas su l'exploiter à son niveau, mais voilà, c'est le football. Après, donc voilà, et puis de là, donc j'ai pu intégrer. On a gagné les coupes nationales avec l'équipe Midi-Pyrénées, et de là, donc il y avait des sollicitations, et mon choix s'est tourné vers le TFC parce que j'étais originaire d'ici, et puis c'était mon club, quoi. Donc quand on est Toulousain, on a envie de jouer à Toulouse.
Quelles étaient les autres sollicitations, justement?
Il y avait la SCAN, il y avait Auxerre qui s'était renseigné.
Ah, des bons clubs formateurs.
Suite, j'avais fait une
la SCAN et la GIA, c'est
quand même. J'avais fait une belle coupe nationale, donc voilà, et présélection, tout ça. Donc malgré mon petit gabarit, grâce à Francis Fernandez aussi, qui a joué quand même au départ de ma carrière, qui a poussé pour que je rentre à Castelmaurou. Après, en sélection, c'est lui qui avait la sélection au départ. Et puis après, c'était Eric Monbert. Mais voilà, donc après on rentre au centre de formation à 15 ans, la seconde, et puis on change de monde, puisqu'on passe de Montastruc à Bellevue. Et puis voilà, la vie d'un centre de formation, hein, où il faut s'accrocher, où c'est pas évident. Et puis après, voilà, les 15 ans nationaux, les 17 ans. Et puis après, on a eu l'opportunité, une génération où le club s'est un petit peu cassé la gueule. Et on est reparti avec cette formidable génération Pichoun.
En national.
Voilà.
Après, en même temps que KZF.
Voilà, c'est ça. L'année, on est redescendu. Et puis en septembre, donc, il y avait AZF. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. On a vécu des choses fortes avec des copains à moi qui ont laissé des plumes, notamment, qui se sont blessés justement à AZF, puisqu'ils habitaient juste en face, là, derrière Gironis. Et voilà, et puis ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier dans le monde professionnel. Et puis après, je faisais pas partie forcément des premiers choix d'Éric Monbert, mais voilà comment j'ai atterri à Toulouse et comment j'ai évolué en passant par la DH, la CFA et puis l'équipe nationale.
Léo,
qu'est-ce qu'elles vous ont appris justement ces années au sein du TFC pour la suite de votre carrière?
Elles ont appris, c'est la construction d'une vie, hein, c'est l'éducation, c'est la rigueur du travail, c'est l'investissement. Et puis j'ai envie de dire, quand on passe, on va dire, le cran au-dessus, qu'on arrive à rester jusqu'à une équipe professionnelle, on est armé, quoi. On est armé parce que mentalement, déjà, c'est très difficile. Et puis après, physiquement, on a un rythme de jeu. Quand on a eu la chance, comme moi, de côtoyer un technicien comme Eric Monbert depuis 13 ans, on connaît bien le football. Après, on a chacun des qualités et des défauts. Hein, je pense que c'est un très bon formateur. Après, en tant que manager,
ouais, c'est différent, c'est pas la même qualité.
C'était différent, mais il a eu.
On a souvent entendu dire qu'humainement, c'était pas le plus simple.
Disons qu'il a eu. Il a su mettre en place son projet avec beaucoup de jeunes et puis quelques anciens. Après, c'est plus dans la manière où il y aurait peut-être certaines choses à redire, mais bon.
Xavier.
Pardon, c'est pour ça qu'il a fait pratiquement toute sa carrière avec soit des équipes réserves, mais ensuite il n'a jamais vraiment entraîné une équipe première en première division. Quoi. Peu, de temps.
TFC, ouais.
Peu de temps. C'est tout. Et donc voilà, parce que ben, c'est un peu ça. Maintenant, le rôle d'un entraîneur, par exemple en première division, ce n'est pas spécialement les entraînements ou mettre en place un système de jeu. C'est le management des joueurs. Voilà, c'est tout. Des agents qui on recrute, l'aura qu'on a, etc. On peut voir pour le top niveau avec Emery au PSG, c'est un peu ça. C'est pas spécialement le gars qui connaît pas le football ou qui sait pas mettre en place une tactique de jeu, tout ça. C'est que son management avec les joueurs et l'aura.
Manager en dessous et, voilà. Et au-dessus aussi, et comme on est managé au-dessus.
C'est ça. Et donc, c'est encore plus difficile. Donc il y a des entraîneurs qui sont faits pour la formation et d'autres qui sont faits pour la Ligue 1. Et l'inverse n'est pas forcément vrai. Voilà, est-ce qu'un Ancelotti serait bon à la formation? Bon, je ne sais pas.
On ne saura peut-être jamais, mais c'est une bonne question.
Peut-être qu'il n'aurait pas la patience. Hein,
mais on l'invitera, Carlo, on lui demandera. Léo.
Est-ce que vous vous rappelez de vos anciens coéquipiers du TFC?
Vaut mieux, ouais.
Oui, il les a encore. Hein.
Non, mais c'est une génération où je pense qu'on est marqué parce qu'on a vécu des choses très fortes.
Recadrer, vous étiez descendu de Ligue 1, de Division 1 à l'époque,
ouais.
Directement à National, c'est ça?
Tout à fait, il y a double rétrogradation.
Une sportive et une financière.
Voilà.
Mais ils ont gardé le centre quand même.
Ouais. Vous avez gardé le statut pro, il fallait remonter rapidement.
Ben, disons que voilà, le statut pro national, on le garde pour une ou deux saisons maxi. Ouais. Et puis il y a eu un président qui a eu une aura, il y a eu un jeune entrepreneur, on va dire. Qui est le président Sadran, qui
toujours là,
mais à un moment donné, qui a saisi l'opportunité et qui a mis ce qu'il fallait sur la table. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup capable de le faire. Donc, c'était une belle histoire. Après, maintenant, dans la durée, mais on voit bien un peu les limites quand même du projet. Et puis c'est pas aujourd'hui. C'est vrai que je me reconnais un petit peu moins dans le club que ce que j'ai pu connaître au départ. Mais,
vous n'êtes pas le seul, je pense. Hein.
Non, mais bon, après voilà, c'est jamais évident. Et puis quand on dirige, on connaît les difficultés de diriger. Donc,
maintenant, peut-être que vous comprenez mieux les...
Disons qu'il y a des choix qui sont clairement faits au TFC. Voilà. Donc, après, tout le monde peut les analyser comme il l'entend. Mais voilà, après le club aujourd'hui est en première division. J'espère qu'il va pouvoir... y rester, mais malheureusement, c'est vrai qu'on attend, en tant que Toulousain, on attend surtout un autre état d'esprit sur le terrain, pourtant avec une très bonne formation, des joueurs qui sortent régulièrement, mais
ouais, personnellement, je ne me reconnais pas dans
cet état d'esprit et avec ce qui est proposé. Alors là, un petit peu plus sur la fin de saison, avec Michael Debève qui a réussi aussi à peut-être remobiliser les troupes. Mais voilà, on est en attente de plus pour ce club.
Léo.
Eh bien, vos coéquipiers se rappellent aussi de vous. Écoutez.
Moi, je regarde que des bons souvenirs. Hein. C'est quelqu'un, c'était un joueur qui était sérieux, rigoureux, travailleur. Qui avait un bon état d'esprit et qui se fondait dans le moule de l'équipe.
Vous l'avez reconnu?
Ouais, c'est Julien. Ouais.
Exactement. Julien Cardy, donc, qui témoigne de ces années-là pour vous.
Ouais. Non, ben après on est toujours en contact, hein, donc ça me surprend pas. On s'apprécie beaucoup. On s'est un petit peu perdu aussi avec pas mal parce que c'est les carrières qui font que et qu'on évolue. On a plus 18 ans, on a plus 20 ans, mais on a un lien. L'an dernier, pour l'occasion des 70 ans du club, j'ai organisé un événement dans l'événement où on avait créé, on a organisé un match de gala où j'ai fait venir un petit peu notre génération là, des Pichounes. On avait évolué contre la sélection un maillot pour la vie. Et c'est vrai que pour l'anecdote, William Prunier, qui n'avait pas pu être présent, a tenu à nous appeler dans le vestiaire, à parler à tout le monde. Et
lui, c'était l'un des anges. Enfin,
c'était le taulier, quoi, le capitaine.
Le taulier qui est resté de la Ligue 1 à la Division.
Il y avait Prunier, Revault, Lièvre. Bancarel, voilà, il y en avait trois ou quatre.
Pensez que sans eux, les Pichounes, ça aurait pas. Ils étaient vraiment importants, ces cadres-là, je suppose.
Ben forcément. Ouais. Je veux dire, c'est eux qui ont, on va dire, c'est eux qui ont mené la barque. Voilà, et ils étaient là pour nous manager justement. Et
c'était dur un peu avec vous
bah, William, si vous connaissez, ouais, c'est pour, c'est à un moment pour... donné, c'est pas entendre. Hein, donc, oui. Mais pour apprendre le métier, il n'y a pas mieux. Quoi. Donc, c'était des vrais professionnels à des postes clés, que ce soit William derrière avec Stéphane. Bon, Christophe dans les buts qui était un monstre. Et devant, Anthony Bancarel, voilà, qui était aussi un très grand professionnel, une très grande carrière, Coupe d'Europe. Et nous, on était là, on n'était rien du tout. Et ben, avec eux, on a appris un métier. Et puis aussi avec les, on va dire, le niveau d'exigence qu'il faut avoir pour atteindre des objectifs quand on est professionnel. Donc, moi, je leur en suis reconnaissant, hein, ça c'est clair. Après, on en a dans chaque club où je suis passé, j'ai eu des bonnes relations, et puis les anciens ont joué ce rôle. Mais c'est vrai que sur la fin, on se rendait compte que c'était un peu plus le football a évolué. Mmh. Entre 2000 et 2013,
c'est un truc. Nicolas parlait de l'état d'esprit tout à l'heure. Il faut savoir que ces joueurs-là, quand le club ils étaient en Ligue 1, ils avaient déjà un palmarès et ils sont quand même restés en national en ayant une baisse de salaire importante.
Oui, bien sûr.
Je peux vous dire que maintenant, en 2018, il arrive ça à un club, les gars, ils s'en vont tous, hein, ils restent pas.
On va peut-être le voir avec Lille, même si Lille, ils n'ont pas trop tourné.
Ah, mais Lille, là s'il mais en reste
aujourd'hui,
deux...
Aujourd'hui, Nicolas, si le TFC venait à descendre en national, ça n'arrivera pas, mais vous pensez que c'est une aventure qui peut... Ou aujourd'hui, de nos jours, c'est difficile de revivre ça. Quelque part, Strasbourg a vécu ça, mais là, en repartant vraiment de zéro
ils sont repartis de CFA2.
Et de CFA2, peut-être que Bastia va réussir à faire ça. Mais...
Après, il se peut que... Enfin, c'est toujours pareil, c'est suivant dans une carrière, c'est... Après, forcément, ce n'étaient pas les plus jeunes joueurs. On ne va pas se voiler la face. Mais même à leur âge, c'est vrai qu'ils avaient d'autres opportunités. Mmh. Et Toulouse, c'est aussi... on a quand même des atouts pour garder les joueurs. C'est une ville où il fait bon vivre et où ils étaient installés depuis plusieurs années. Et puis, il y avait un challenge à relever. Donc, quand on est un sportif, on a envie de relever des challenges et c'est ce qu'ils ont fait. Et je crois qu'ils ont, voilà, ils ont. Ce groupe a marqué le club à vie.
Ouais, les pitchounes, ça reste marqué.
Et pourtant, c'est
presque 20 ans maintenant.
Voilà, donc c'est tout à leur honneur et puis c'est aussi à l'honneur du club d'avoir pu les conserver et d'avoir fait le minimum, on va dire, pour leur permettre de repartir dans le monde professionnel dès la saison suivante.
Léo.
Et vous passez dans la catégorie senior en 2000. Comment il va se dérouler ce changement pour vous ?
Ben après, moi, quand j'étais jeune, il me tardait de m'évaluer face à des seniors. Parce que quand on est en 17 ans nationaux, quand on a envie on voit les potes là, qui ont 2-3 ans de plus qui jouent au-dessus et on a vite envie de se confronter parce qu'on fait des... Il y a des matchs sympas en 17 ans, mais bon, ce qui est intéressant, c'est vite d'aller voir au-dessus ce qu'on peut faire. Donc voilà, j'ai vécu après la première année donc, où principalement j'ai joué en DH, division d'honneur, qui n'existe plus aujourd'hui, il n'y a plus de troisième équipe. Et là, on était confrontés à des Caser, à des...
c'était l'équipe 3 du TFC.
Ouais, à des Muret, à des... qui c'est qu'il y avait comme équipe ? Il y avait Lavelanet, il y avait des équipes, voilà, un petit peu de... Peut-être des équipes aussi avéronaises. Et on a terminé champion. On termine champion et on fait finaliste de Coupe du Midi, où on perd en finale, je ne me souviens plus contre qui d'ailleurs. Balma. C'était à Balma le match. Oui, c'était à Balma.
Pardon. Balma.
Oui, à Balma. Balma. On prend Balma. un but c'est du milieu de terrain dans la prolongation. Et ouais, c'est un souvenir aussi. Mais c'est vrai que dans mon palmarès, j'ai une finale de Coupe du Midi perdue.
Avec une équipe 3, c'est beau quand même.
Ouais, ben c'est vrai que cette année-là, c'est pareil. On va dire que c'était déjà les prémices de ce qui allait se passer l'année suivante, parce que on a été propulsé entre la CFA et la DH directement avec le groupe national. Donc, champion de DH, finaliste de coupe, à 18-19 ans, c'était pas donné à tout le monde. On voyageait, on allait à Honnay-le-Château, on se faisait bousculer, mais on avait une envie qui était peut-être autre. Il y avait aussi une osmose, on s'entendait bien. Ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble au centre. Et ça donne des résultats. Voilà. Et on a continué à grandir comme ça, un groupe de 5-6 joueurs où on a accédé après au niveau supérieur.
Léo.
Et par la suite, vous partez pour Rodez.
Ouais.
Vous évoluez en CFA. Vous restez pendant 3 saisons dans ce club. Est-ce qu'on peut dire que ce club vous a permis de beaucoup évoluer durant ces 3 saisons?
Ben, disons que je me suis blessé donc l'année où on monte en deuxième division, en Ligue 2 avec Toulouse. Donc j'ai ma plus grosse blessure donc avec une fracture de la malléole. J'ai eu plus de 8 mois de convalescence et puis donc quand je suis revenu, forcément le train de la Ligue 2 il m'était passé un peu sous le nez. Mais je me suis accroché avec la réserve. Je jouais quand on me donnait du temps de jeu puisque ben, je faisais partie des plus vieux, donc puisque je devais avoir 20 ans. Et donc c'était Raymond Camus, le coach. Et on avait une relation très très saine. Et il me disait, écoute Nico, dès que j'ai l'opportunité de te faire jouer, t'inquiète pas, je te ferai jouer. Après, il avait des consignes pour faire jouer des joueurs un peu plus jeunes. Mais voilà, moi j'ai jamais lâché, j'ai toujours continué à travailler. Et à la fin de la saison, les premières, on va dire, les difficultés commencent avec. On n'est plus un jeune, on a 21 ans, il faut rebondir, il faut gagner sa vie. Et on fait une saison à moitié blanche. Et il faut rebondir, il faut trouver un club qui peut me permettre d'évoluer, de retrouver mon niveau. Ça a duré un petit peu, mais y a eu Rodez qui est venu me chercher avec un nouveau projet, qui se sont maintenus la dernière journée à Balma dans des conditions un peu épiques, et en CFA2. Un jeune coach qui est arrivé à l'époque, c'était Régis Brouard.
Oui.
Voilà, donc ça a tout de suite matché entre nous. Et moi, ce qui m'importait, c'était de conserver un rythme d'entraînement. Et c'est ce qui a été le cas. On s'entraînait tous les jours, lundi, mardi, mercredi, vendredi. Et moi, le jeudi, on était 2 ou 3 joueurs où on s'entraînait tout seul avec le coach. Et voilà, et moi j'ai commencé à. Enfin, on travaillait du travail individualisé au poste, quoi, du jeu au poste. Et par rapport à mes qualités, il m'a dit allez, on va travailler, coup de pied arrêté, qualité de centre. Et puis voilà, après j'ai un petit peu fait ma carrière sur ça. Et voilà, puis j'ai grandi avec Rodez, CFA 2, CFA, CFA, 2 années de CFA où on monte en national. Et puis là, je marque, je crois, peut-être 14 ou 15 buts cette année-là. Et puis je signe à Châteauroux.
Et pourquoi Rodez? Est-ce que vous aviez d'autres propositions?
Il y avait Bayonne à l'époque qui devait me faire signer.
En CFA.
Et je me suis un peu fait bananer à l'époque. Mais bon, c'était l'apprentissage. Et puis finalement, ça a été une bonne chose. Puisque je me suis vraiment régalé à Rodez. J'ai encore pas mal de relations avec les Ruthénois. Et j'ai vécu des moments exceptionnels avec un 32e de Coupe de France, deux montées, des liens avec les gens qui sont marqués aussi. Et voilà, puis c'était un club aussi que moi, quand j'étais gamin, les années 90, c'était la D2, c'était l'époque demi-finale de Coupe de France contre Marseille. Voilà, moi, c'était
Poisson, le coach de
la famille, la famille Poisson, Michel Poisson. Et je savais qu'il y avait quelque chose à faire là-bas. Et puis je suis arrivé là-bas, il se passait plus grand-chose. Et puis on a réveillé un petit peu ce public. Je me suis régalé quoi, là-bas.
Léo.
En 2006, vous partez pour la Ligue 2 dans le club de la Berrichonne de Châteauroux.
Ouais.
Là, ça a été un petit peu plus compliqué. Vous restez qu'une saison et vous n'arrivez pas vraiment à vous imposer. Qu'est-ce qui vous manquait?
C'est la transition entre la CFA et la Ligue 2.
C'est pas le même climat aussi.
C'est pas. Oui, c'était. Et puis bon, c'était. Châteauroux, c'était quand même un bon club, un bon club de Ligue 2. Avec
qui descendait de Ligue 1, je pense.
Non, ça ne descendait pas, c'était maintenu depuis plusieurs saisons, mais c'était un club où il y avait des gros joueurs. Il y avait des Jérôme Leroy qui étaient passés par là, il y avait des Yann Lachuer, alors moi j'ai joué l'année où j'y étais, il y avait encore Vincent Fernandez dans les buts qui arrivait de Sochaux, PSG Sochaux qui arrivait chez nous, il y avait Teddy Bertin. Il y avait Van Den Bosch.
Sa grosse frappe.
Ouais, mais après, voilà, c'est des rencontres. J'ai quand même eu la chance de côtoyer des joueurs qui avaient un certain vécu. Et donc ça a été une année où, malgré tout, j'ai fait une vingtaine de matchs. Et après, j'étais régulièrement dans le groupe, donc je ne rentrais pas tout le temps. Mais c'est sûr que le climat, l'engouement qu'il pouvait y avoir après ce que j'avais pu connaître à Rodez et puis les premiers contacts que j'avais pu avoir avant de signer à Châteauroux, à Nîmes, Déjà, c'est vrai que j'étais plus attiré par ce football-là.
Léo.
Vous quittez donc ce club pour Nîmes, ouais. Alors club de National. Ouais. Ça n'a pas été un petit peu bizarre de partir de Ligue 2 ?
Ben non, de la quitter. Parce que, comme je vous l'explique, le principal, c'est de se sentir bien et puis d'être en accord avec ce qu'on est. Donc, moi, mon tempérament correspondait plus à cet état d'esprit nîmois. Un club qui a une vraie histoire, qui est une vraie ville de foot. Pas pour dénigrer Châteauroux, mais c'est vrai que Châteauroux, c'est très très bien pour apprendre le métier, des conditions d'entraînement magnifiques. Mais après, en termes d'engouement, ça reste le Berry. Donc, c'est vrai qu'il ne se passait pas grand-chose sur le terrain. Après, c'était quand même pour moi, c'est un club auquel je suis très très reconnaissant parce que donner la chance à un joueur de 25 ans à signer son premier contrat pro, c'est chose que je n'oublie pas. Et j'ai encore des contacts aussi là-bas. C'est un club qui, cette année, fait une très belle saison alors qu'ils sont promus. Et puis Nîmes, parce que c'est...
Avec Vasseur comme entraîneur.
Ouais, cette année, c'est... Enfin, après le choix de Nîmes, c'est Régis Brouard que je retrouve, tout simplement, qui était parti une année avant que je parte de Rodez, qui avait rejoint Nîmes. Et on se retrouve là-bas. Voilà. Parce que j'aimais cet engouement qu'il pouvait y avoir autour du club. Alors forcément, hein, un état d'esprit du Sud, un petit Marseille où j'ai tout connu. Hein. Les insultes, les cailloux, caillassage. Et puis à la fin, à chaque fois, une bonne, de superbe dénouement. Voilà, donc j'ai passé 3 ans, mais j'ai l'impression d'avoir joué 10 ans là-bas.
Au Stade des Costières.
Ouais. Voilà, et qui aujourd'hui est en train de retrouver de sa superbe avec... un dernier coup de rein pour, je l'espère, retrouver la Ligue 1 à la mi-mai.
Ils auraient pu, là, ils ont fait match nul contre Bourg-en-Bresse, ils auraient pu, mais ça va arriver. Ils vont monter cette année.
Ouais, ils vont monter, c'est dur. Hein.
On y croyait l'an dernier déjà.
Terminer le travail, c'est souvent ce qu'il y a de plus dur. Ils sont aujourd'hui la lutte avec l'AC Ajaccio. Et il y a deux points qui les séparent. Donc là, il y a des matchs. Là, il y a une réception. Ils reçoivent Lorient, ils vont à Clermont, donc Lorient qui espère encore jouer les playoffs et Clermont qui aussi, aujourd'hui est en position de jouer les playoffs. Donc ouais. Deux matchs difficiles, mais je peux pas imaginer cette équipe de Nîmes perdre des points à domicile contre Lorient. Et après d'ici Clermont, on verra ce qu'aura fait Ajaccio.
Léo.
Et rapidement, vous la retrouvez cette Ligue 2, car avec Nîmes, vous participez à la montée.
Ouais.
Et est-ce que c'est une joie de retrouver la Ligue 2, malgré tout ?
Pas malgré tout. C'est plus qu'une joie. Un club comme Nîmes qui a été... un peu, on va dire que voilà, j'étais Toulouse quand j'y suis arrivé. On se retrouve dans des conditions difficiles. On est doublement rétrogradé et puis on arrive à accéder. Je vais à Rodez où le club est au bord du gouffre et puis on repart et puis on arrive à faire...
Bonheur un peu.
On fait deux accessions. Non, mais j'ai vécu un début de carrière magnifique. Donc, et puis là, Nîmes, club sevré du milieu professionnel depuis, il me semblait, 7 ou 8 saisons. Une grosse attente chaque année, des effectifs calibrés pour jouer le haut de tableau. Et chaque année, ça a échoué. Et cette première saison à Nîmes, qui est... je ne sais même pas si... C'est incroyable. Je veux dire, on fait 3 entraîneurs, 2 entraîneurs limogés. Et le troisième entraîneur, on se retrouve, on est à 4 points de la relégation, ou 3 ou 4 points de la relégation. On est à, pareil, on a 7 ou 8 points du troisième. Et puis voilà, et puis on arrive à se remettre dans le droit chemin après s'être fait bien chahuté par nos supporters. Et puis dénouement sur la dernière journée de championnat, où on reçoit, on est troisième, on reçoit Laval qui est cinquième, qui peut encore accéder en nous battant. Et quatrième, qui était Cherbourg, qui en gagnant, justement, si on se faisait accrocher avec un match nul contre Laval, pouvait accéder. Donc, une dernière journée au Costières avec un stade jamais vu. Enfin, je crois que c'est le plus gros moment vraiment de ma carrière, en ébullition, 18 000 personnes. Et puis voilà, puis on arrive à gagner, on gagne 3-1, je crois, contre Laval, avec encore un... un scénario où on prend un but au bout d'une vingtaine de minutes, donc 18 000 personnes un petit peu chauffées à blanc, et on marque deux buts à la 44 et 45e, juste avant la mi-temps. Et ben là, tu rentres dans les vestiaires, tu sens tout qui tremble, et même toi, tu trembles, tu sais pas ce qui t'arrive, mais tu sais qu'il peut rien t'arriver, quoi. Donc, puis bon, voilà, donc avec la montée, le tour de la ville, la présentation sur le parvis des arènes. Voilà, donc moi je suis allé, forcément je m'échappais pas, et je suis allé au bout de la soirée. Et non, c'est des grands moments de partage avec ce public-là. Et voilà, c'est ce que je leur souhaite là. Je pense que ça va être. J'espère vraiment qu'ils vont arriver à terminer la saison pour retrouver la Ligue 1 et offrir à ce peuple nîmois, comme ils aiment bien le dire, retrouver la Ligue 1 plus de peut-être 20 ans après, je crois.
Léo.
Et à ce niveau, vous retrouvez des joueurs que vous avez déjà croisés ? Comme par exemple Julien Cardi.
De l'avoir dans l'équipe adverse, c'est intéressant aussi parce qu'on sait qu'il va falloir cravacher pour pouvoir récupérer le ballon et pour pouvoir mettre à mal l'équipe dans laquelle il est. Donc voilà, c'est toujours intéressant de se confronter à quelqu'un qui vous redonne un petit peu du fil à retordre.
Voilà ce qu'il dit donc de vous.
Ouais, mais je pense que j'ai. Moi, j'étais un joueur, mes caractéristiques, c'était que j'ai jamais rien lâché. Déjà, quand on était, même à Toulouse, j'étais sûrement pas le plus talentueux, mais voilà, j'ai toujours été présent et dans l'investissement, dans le travail, dans le. Voilà, c'est une carrière, ça tient à pas grand-chose et c'est vrai que j'avais une éducation qui m'a permis de tout mettre de mon côté pour y arriver. Et puis voilà, puis mon parcours. Je suis très fier de mon parcours parce que quand on rate le train à l'époque de la deuxième division comme Julien ou cette génération-là, elle évolue en Ligue 2, elle connaît la Ligue 1 et que toi derrière tu repars en CFA 2, en CFA, c'est pas évident parce que c'est tes copains et puis tu t'es dit t'as raté une première marche. Mais derrière, j'ai fait des choix et aujourd'hui, je suis très 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 content de ma petite carrière et puis les gens que j'ai pu rencontrer, les villes dans lesquelles j'ai joué. Quand on joue à Rodez en national, ça vaut beaucoup de clubs de deuxième division voire de première division parce qu'on vit football, parce que les gens là-bas quand ils vont boire un café, ils vous parlent que du match qui arrive. Et voilà, c'est peut-être ce que je ne retrouvais pas à Châteauroux quand j'y étais. Donc, après, j'étais à Nîmes et c'est vrai que je me suis vraiment épanoui là-bas aussi.
Léo.
Vous restez à Nîmes jusqu'en 2010. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui encore, c'est votre club de cœur ? On voit par exemple sur votre profil que vous continuez d'encourager les crocos.
Sur Facebook.
Ouais, mais c'est un club, je suis encore sollicité par pas mal de personnes là-bas. C'est vrai que c'est les aléas d'une carrière. Le coach avec qui on réussit à se maintenir là, avec le maintien, un petit peu de folie aussi l'année après la montée. Il me restait une année de contrat. Tous les joueurs qui étaient avec moi, on re-signait tous 3 ans. Et puis moi, je vais voir mon agent, je lui dis, mais attends, il me reste une année de contrat. Je fais partie de ceux qui ont permis au club de se maintenir à la dernière journée. On renégocie pas, on n'est pas capable de prolonger. Il me dit non, mais t'inquiète pas, t'es bien. Et je suis bien. C'est vrai que j'avais de très bonnes relations avec le président, mais ce n'était pas suffisant. Donc, je n'ai pas su capitaliser à ce moment-là, parce que sinon, peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore là-bas. Mais voilà, c'est le football, ça fait partie d'une expérience. Et même extra-football, ça, c'est une expérience qui me, dans laquelle aujourd'hui, je me sers de ça dans ma vie de tous les jours. Et quand on a la possibilité de capitaliser, il faut le faire parce que le lendemain, on ne sait pas de quoi il est fait. Et c'est ce qui m'est arrivé un petit peu l'année suivante ou la troisième année. Petit à petit, je sens qu'on me met un petit peu de côté, même si je m'accroche et que je dois faire peut-être ma trentaine de matchs. Mais sur les 5-6 derniers matchs, on me met sur le bord. Et puis là, quand on arrive à négocier, on comprend que... On n'est plus le bienvenu, malheureusement. Donc, après, j'ai eu la chance de rebondir rapidement à Clermont. Et de faire mes 3 dernières saisons à Clermont.
Exactement. Et votre ancien coéquipier, Cédric Loubassa, se rappelle de vous ?
Pour moi, il y a un mot qui le résume. Il est pareil en dehors et sur le terrain. C'est quelqu'un de très généreux. Donc voilà, et quand il est sur le terrain, il avait une VMA, je sais même pas, 24, 25, il pouvait courir jusqu'au lendemain. Il s'arrêtait pas, il arrêtait pas avec des efforts incroyables. Il répétait sur le côté et puis il avait une qualité technique au-dessus de la moyenne. C'était pas quelqu'un qui allait éliminer 5-6 joueurs, mais il avait une qualité de passe, une qualité de centre phénoménale.
25 de VMA, c'est pas un peu beaucoup, hein, Nicolas?
Ouais, mais il me semble qu'il a vécu pas mal de temps sur Fréjus. Donc, non, mais je suis arrivé à, je sais plus, c'était 22-45 ou aux alentours des 23.
C'est pas mal.
Donc c'est vrai que c'était une de mes principales qualités. Hein, dans ma carrière, à chaque fois, je me retrouvais tout seul lors du test. Mais ça me permettait aussi de, alors qu'on ne m'attendait pas et que souvent, j'étais peut-être le 12e, le 13e ou le 14e joueur. Ben, d'entrée de saison, je me faisais un plaisir de mettre tout le monde d'accord et de montrer que... Parce que souvent, les tests VMA, c'est au bout de la deuxième ou troisième semaine d'entraînement. Donc ben là, les entraîneurs, c'est vrai qu'ils étaient quand même sensibles à se dire ah, on va pouvoir compter sur lui et on sait qu'il sera là. Quoi.
Léo.
Vous vous retrouvez libre de tout contrat le 30 juin 2013. Le problème, c'est que vous vous retrouvez sans proposition. Vous décidez alors de mettre fin à votre carrière. Bon, j'imagine que vous avez fait ça à contre-cœur.
Non, après j'ai décidé d'arrêter ma carrière en janvier. Je m'étais donné quelques mois pour, plusieurs mois pour rebondir. Il y avait des opportunités, mais il y a l'aspect familial aussi qui rentre en compte. Et à ce moment-là, donc on avait notre petite Emma qui était en bas âge, voilà, qui est née à Clermont en mars, donc. Donc voilà, c'est plutôt un choix familial et puis des opportunités professionnelles aussi entre décembre et janvier qui ont fait que j'ai mis un terme à ma carrière. Je me suis entretenu avec le club de Colomiers qui était en national, où j'ai retrouvé aussi William Prunier qui était à sa tête, Aurélien Mazel, Jérémy Moreau, voilà, qui sont des amis. Et puis voilà, moi j'avais déjà enchaîné sur un diplôme gestion d'organismes sportifs qui m'amène aujourd'hui à diriger un club. Mais donc l'idée, c'était de... Oui, il y avait avec Colomiers, ça s'est pas concrétisé parce que je pense que le club aussi n'était pas structuré pour pouvoir me proposer, puisque vu que je sortais d'un contrat professionnel, il aurait fallu me proposer donc un contrat. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas financièrement, c'était compliqué pour eux de me proposer quelque chose. Donc voilà, un peu, c'est vrai qu'à 31 ans, c'est jeune pour arrêter. Mais ça amène aussi à ce que je peux être aujourd'hui à 36. Et la reconversion qui est très très difficile. Voilà, aujourd'hui, je suis en train de me reconvertir enfin professionnellement dans le milieu de l'immobilier où on avait une opportunité avec ma femme qui a pris le relais. Voilà, c'est un projet familial. Et voilà, donc il n'y a rien à regretter. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a une autre vie. Je suis toujours investi donc, dans le milieu du football avec le club de Portet.
Depuis 2015.
Donc dans le milieu amateur que j'ai appris à redécouvrir. Et puis voilà, parce qu'il fallait mettre en application le diplôme que j'avais passé. Parce que je fais partie de ceux qui aiment bien faire. Et après, j'aime bien parler aussi, mais pour parler, je pense qu'il faut faire. Et quand on fait, on est plus légitime que ceux qui ne font pas.
Léo.
Et justement, ça n'a pas été trop compliqué de succéder à Gérard Montoriol, qui lui était resté environ 21 ans à la tête du club de Portet.
Compliqué, on peut pas effacer 21 ans, on les efface pas, on n'est pas là pour les effacer avec toutes les bonnes choses qu'il a faites. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a permis à ce club d'évoluer avec on va dire un certain management et puis une certaine vision aussi. Voilà, avec des équipes seniors qui ont évolué, une section féminine qui s'est relancée aussi avec lui. Et puis moi, je suis arrivé avec d'autres idées, donc toujours jamais évident, on va dire, d'imposer ses idées. Et aujourd'hui, j'en suis encore là. Hein. J'espère pouvoir imposer mes idées au sein du club. qui sont plus tournés autour de l'école de foot, comme j'ai pu le dire en préambule. Et clairement, aujourd'hui, je ne suis pas dans les clous par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Donc, je me remets en question et j'espère... Voilà, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur la saison prochaine avec des changements qui, j'espère, porteront leurs fruits et qui me donneront envie de continuer au club parce qu'en l'état, c'est pas... Voilà, ça me correspond pas. Donc voilà, malgré que les résultats soient très positifs chez les grands, c'est pas pour ça que j'ai pris le club. Donc si j'arrive pas à inverser la tendance chez les jeunes, il est clair que dans 2 ans, je serai plus à la tête du club.
Nicolas, on passe tout de suite à l'interview dernière fois. Je vais vous poser des questions, vous allez me répondre avec la dernière chose que vous avez faite. C'est plutôt simple. Si je vous dis dernière paire de crampons achetés,
Predator.
Dernier but marqué.
Peut-être
pas si simple finalement.
J'avais pas marqué beaucoup des buts.
En futsal.
Non, je sais même plus la dernière année. J'ai marqué peut-être 2 ou 3, mais un but de raccro. Si je marque un but important contre Tours, il me semble.
Ah, ça compte.
Ça compte.
1-0.
Dernière joie sur un terrain.
Ma dernière année avec Clermont, j'ai passé des. Après le match. On est toujours. Il y avait des bons matchs, donc j'ai eu la chance de justement, comme Colomiers, de jouer à Louis II, rentrer avec le brassard de capitaine face à l'équipe de Ranieri qui remonte. Donc c'est toujours des choses qui resteront gravées. C'est la dernière année. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, pour en revenir tout à l'heure, arrêter sur une dernière saison où on a été capitaine. Pendant les 2 tiers, mais voilà, dernière saison, ça a été un très bon souvenir de football.
Dernière déception sur un terrain.
La déception, c'est peut-être le dernier match que j'ai joué avec Clermont.
Dernier carton.
J'ai pris en rouge cette année-là et qui m'a coûté cher sur la fin de saison.
Dernier match regardé à la télé.
J'ai regardé l'intégrale Ligue 2 là, vendredi dernier.
Dernier match en tribune.
J'étais samedi contre Porté Albi.
Dernier maillot acheté.
J'en ai rarement acheté de maillot.
Rarement ?
Ouais, non, j'ai pas le souvenir d'avoir acheté un maillot.
Dernier pari si vous êtes joueur.
Non, pas joueur. Pas de pari.
Une dernière question, Nicolas Bayot par Nicolas Bayot, ça donne quoi ? Comment vous vous définiriez ?
Je pense que Cédric l'a bien. Je pense que je suis quelqu'un de généreux, qui est combatif. Combativité, générosité. Voilà, je pense que c'est l'état d'esprit qui. C'est, quand on parle de Nicolas Bayot, on pense à son état d'esprit, je pense. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter.
Merci Nicolas. On passe tout de suite à l'interview tac au tac de Quentin.
Ah, oula.
Nicolas, ça va être rapide. Si je vous dis Barça ou Real ?
Barça.
OM ou PSG ?
OM.
Manchester City ou Manchester United ?
United.
Bayern ou Dortmund ?
Bayern.
Robben ou Ribéry ?
Robben.
Reus ou Bale ?
Bale.
Thauvin ou Mbappé ?
Mbappé.
Messi ou Ronaldo ?
Aucun des deux.
Florentino Pérez ou Jean-Michel Aulas ?
Aulas.
Nasser Al-Khelaifi ou Valdemar Quita ?
C'est pas pareil.
Aucun des deux.
Rugby ou tennis ?
Rugby.
Hand ou basket ?
Hand.
Pain au chocolat ou chocolatine ?
Choco.
Thé ou café ?
Café.
Mer ou montagne ?
Les deux.
Italie ou Espagne ?
Voilà, c'est ses origines. C'est difficile, je suis origine un côté italien, l'autre espagnol. Les deux quand même.
États-Unis ou Australie ?
Australie.
Saint-Pierre ou le Capitole ?
On sent bourgeoise avec le Capitole.
Nicolas Bayou, coach de portée un jour, possible ou non?
Non.
La vidéo dans le foot, oui ou non?
Oui.
La France, elle peut la gagner cette Coupe du Monde?
Bien sûr.
Bon, très bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci messieurs, il est 20h30, on a pris un peu de retard et on va passer directement au quiz. Alors pour nos auditeurs, sachez que Xavier a pris son micro, là, il l'a bien à la main, il est prêt. Je vous rappelle les règles messieurs, 10 questions, 1 point par bonne réponse. Et ce soir, nous allons jouer en équipe, comme d'habitude. Xavier va jouer avec notre invité Nicolas. Et Quentin fera équipe avec Léo. Pour répondre, il suffit de me donner votre prénom pour prendre la main.
C'est Moscato Show, là.
C'est ça. C'est un peu ça. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs?
Prêts.
Go. Prêt. Allez. Ça commence par une petite phrase. Et en fait, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas cacher. Il était obligé de le cacher. Il était obligé de le cacher. Il l'a dit, j'étais obligé de le cacher.
C'est en France?
Non.
C'est dans le milieu du sport?
C'est dans le foot, hein. Ah. C'est que du foot. Con. Quelque chose.
C'est un joueur français qui a tweeté ça.
Payet?
Il a pris une photo avec quelqu'un.
C'est un Parisien ou un Marseillais?
J'étais obligé de le cacher.
Alors c'est.
Marseillais?
Il joue plus en France.
Ah, Quentin?
Oui.
C'est pas Benjamin Mendy au moins?
Et si, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement?
Est-ce qu'il s'est pas bossé avec un maillot de l'OM par rapport.
C'est pas tout à fait ça.
C'est
hein.
pas par rapport à la billetterie.
Non, c'est pas du tout ça. Hein. Quelqu'un là
je
ou
sais
pas
que c'est Mendy, mais vous pouvez pas le cacher.
Bon, on va. Comme on est important, on va offrir le point à Léo et Quentin. C'était bien Benjamin Mendy qui a posé avec un supporter du PSG qui avait un maillot du club de la capitale. Et l'ancien joueur de l'OM qu'il est, donc Mendy, a accepté de poser avec lui, mais en cachant l'écusson du PSG. Ça fait 1-0 pour l'équipe Léo Quentin. Quelle chaîne a décidé de diffuser les nouveaux épisodes d'Olive et Tom? Est-ce que vous l'avez vu ça?
C'est une chaîne qui n'est même pas sur la TNT.
Bah si.
Si, elle est sur la TNT.
Il y a une nouveauté, Léo.
Léo, Gulli?
Qui?
Gulli?
Non, c'est pas Gulli.
Non, c'est C8?
Non.
W9?
Non.
TMC?
Je vous rappelle qu'il faut donner vos prénoms, messieurs.
TMC?
Non.
Nicolas?
C'est assez logique, hein? Oui, Nicolas.
Non.
Léo, France 4?
Non. On parle de football, on parle de sport.
Nicolas, l'équipe. Xavier. L'équipe.
Donc Xavier qui s'appelle Nicolas.
L'équipe.
Mais oui, l'équipe, tout simplement. Tout simplement, messieurs, l'équipe qui diffuse depuis le 19 avril sur ses supports numériques les épisodes remasterisés de Captain Tsubasa. Ça fait. Et non pas Loubasa. Ça fait un partout. Qui a tweeté « Si là, il y a faute, c'est du jamais vu ».
Léo.
Un adepte des...
Jean-Michel Aulache. Aulas.
Aulache, non. Aulache. Je sais pas Aulache.
Nicolas.
Oui.
C'est pas Rami?
Non. C'est un joueur qui est...
Je crois que j'ai vu le match.
C'est possible que vous
c'est
ayez
par
vu
rapport
le match.
À... Quentin, c'est par rapport à Dijon-Lyon?
Non, pas du tout. Pas c'était un match de cette semaine.
Aussi. Dijon,
non, c'est... Mince, j'ai vu le match cette semaine.
Ah, en France, il y a eu deux matchs cette semaine.
Ah oui, la oui.
Nicolas.
C'est par rapport à la pelouse.
Par rapport à la pelouse. Mais c'est en France?
Ah
oui.
OM,
oui, c'est en France, oui. Ouais, cette semaine, messieurs, les demi-finales de Coupe de France.
Demi-finale de Coupe de France?
Oui.
Les Herbiers.
Ah, mais c'est les Herbiers.
L'autre.
Chambly.
Non, l'autre.
Ah, mais non, c'est Campingé.
Voilà.
Xavier Campingé sur le.
Et oui, mais qui a tweeté si là il y a faute, c'est du jamais vu. Bon, vous l'avez pas vu, messieurs, c'est pas grave. C'est l'excellent Thomas Meunier, le latéral droit parisien, a répondu à un tweet du stade Malherbe. Alors que la pelouse fauche Thomas Meunier, mais l'arbitre laisse jouer. Et il a réagi. Et oui, mais il fallait répondre avant à Nicolas. Il a donc réagi. Et d'ici là, il n'y a pas faute, c'est du jamais vu. Donc toujours un partout. Qu'est-il arrivé ce week-end à l'ancien Lyonnais Lisandro Lopez?
Ah, impossible.
Tu joues seul, Xav?
Je ne sais pas du tout. Ah non, mais là,
j'aurais dû regarder l'actualité alsacienne.
Ouais, parce que là, j'étais comme si j'étais en orbite en Alsace.
Alors. C'est encore une histoire de penalty.
Lisandro Lopez?
Oui, vous vous rappelez de Licha?
Ah oui, je m'en souviens. Mais il joue en Argentine, lui, non?
Oui.
En ce moment?
Exactement, il joue au Racing Club.
Au Racing Club, et il s'est passé quelque chose avec lui.
Exactement, contre Vasco de Gama. Exactement.
Tu pourrais plus. Pardon, vous pouvez.
Que s'est-il passé? Que lui est-il arrivé?
Quentin, peut-être qu'il a raté un penalty avant d'en marquer un?
Pas tout à fait.
Il a marqué un penalty, on en a raté un.
Non, mais on est dans les histoires de penalty. Peut-être pas le bon chiffre.
Vas-y, t'as une idée?
Bah, peut-être il a marqué un penalty en deux temps.
Non.
Quentin, il a tiré 3 penalties.
Et
il a
le point des 3.
Non. Et alors, je vais donner le point à Léo, à Quentin, pardon. Lors de la victoire de son club, le Racing Club, donc comme je vous l'ai dit, face à Vasco de Gama en Copa Libertadores 4-0, Licha a tiré 3 penalties dans le match et a loupé les 2 premiers. Ah. Donc quand il a marqué le 3e but, il s'est excusé auprès de
supporters. Oui, pour
supporters. Moins que ça, il y en a qui finissent dans des pubs. Hein,
je comprends pas pourquoi il a laissé tirer le 3e.
Bon, peut-être parce qu'il y avait un score.
Déjà dès le premier loupé.
Mais les Argentins, ils aiment bien tirer.
Moi, il va au vestiaire direct.
C'est chier. Martin Palermo qui avait loupé 3 pénalties face à la Colombie.
Oui, il a plus rejoué après. Parce que si c'est un Colombien qui loupe même pas un péno, il loupe lui.
Après, il y avait peut-être un record à aller chercher aussi.
Peut-être le record de Palermo.
Dans le Guinness Book des pénalties loupées.
Mais si on reste en Amérique centrale cette fois-ci, que s'est-il passé au Mexique ce jeudi dans l'état central de Guanajuato?
Léo, ils ont volé la Coupe de la Ligue Europa.
Oui, c'est très fort.
Ça, Léo. Le trophée de l'Europa League a été dérobé alors qu'il venait d'être présenté à une exposition privée. Dérobé dans un véhicule, la coupe a tout de même été récupérée par les autorités 24 heures plus tard.
Ah ouais.
Peut-être que du coup, l'Olympique de Marseille aura la chance de...
Qu'est-ce qu'elle foutait au Mexique
C'était une exposition privée, Xavier. Si vous aussi, vous avez envie d'avoir l'Europa League chez vous, vous appelez l'UEFA.
Ouais.
Alors après, peut-être qu'il faut vendre quelques maillots Patrick mais pour pouvoir se le payer. Mais, bon, voilà.
On fera le tour de la Coupe Europa en Ariège.
3-1.
On est sûr que ce sera pas
messieurs,
drôle.
Xavier.
Oui, on est... Non, mais là, c'est Mexique, Lisandro... J'ai pas lu.
Alors, il passe d'une pizzeria à un magasin de meubles.
Quentin. Le stade de Reims.
Ah oui.
Et je vous recommande le clip d'ailleurs. Le clip.
Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
pour célébrer le passage voilà, avec les fameux sponsors Ligue 2
Vous l'avez vu ça Vous l'avez vu Nicolas
Le clip est énorme.
C'est une magnifique vidéo des joueurs du stade de Reims qui viennent d'assurer leur accession donc en Ligue 1. On voit les joueurs quitter Domino's Pizza, sponsor officiel de la Ligue 2, donc pour rejoindre en bus Conforama qui est le sponsor de la Ligue 1.
D'accord.
Donc ça fait 4-1 Xavier. Nicolas, il faut se réveiller. Alors, si le stade de Reims est sûr de jouer en Ligue 1, là, on a un professionnel de la Ligue 2 en face de moi, la saison prochaine, un club, lui, est assuré de descendre en National. Lequel ?
Quentin. Tours ?
Ah oui. Là, Quentin, il n'a jamais joué en Ligue 2 et pourtant, ça, il le sait.
D'ailleurs, le président a allumé, si vous avez entendu la réaction, il indique qu'avec son équipe de U19, que son équipe de U19 aurait peut-être fait mieux.
Et c'est possible, parce que le Tours FC ne compte que 19 points en 35 journées.
Et pourquoi il a dit ça des U19 ?
Ah, je sais pas. Ça,
là,
sais
c'est
pas.
La question. Attends,
je vais poser la question. Mais non, pourquoi
non, parce que les 19 ans, c'est un final de la Coupe Gambardella.
Exactement.
L'anecdote à 0 point.
Non, l'anecdote à 1 point. Allez, je lui offre.
Non,
attends. Un peu d'un jeu.
Merci.
Un peu d'un jeu.
Non, tu le savais ça.
Oui, je le savais, ouais.
Comme ce que ça intéresse quand même,
résultat. On connaît le résultat. Et on connaît aussi le deuxième finaliste, si je sais jamais. Vous le connaissez ou pas?
De la Gambardella?
Oui.
Non.
Oui, c'est.
C'est
l'Estac.
Oui, c'est 3.
Et un point de plus.
Pas non plus.
Allez, on se fait les questions,
les réponses.
On va laisser un peu de suspense. Deux points donc pour l'équipe Nicolas, qui donc invente des questions et des réponses.
Attends,
non, n'invente pas les réponses, parce que ce sont des vraies réponses. Comme depuis plusieurs semaines, vous avez remarqué dans ce quiz, on parle systématiquement de Cheikh Diabaté dans ce quiz. Donc.
Ah.
Que lui est-il arrivé ce week-end, Quentin?
Il est rentré, il se fait exclure.
Eh oui, voilà, je suis désolé les gars, mais il faut.
Non, mais là,
il y a une encyclopédie là.
Non,
il est connecté. Non, mais
il
est connecté.
Diabaté. Je peux pas me placer une sur Diabaté.
Et pourtant, vous l'aimez bien, Xavier.
Et je l'aime bien, mais chaque fois, c'est lui.
Ah, Benevento.
Benevento, tu
sais. Un point en plus.
Il claque en fait.
Non. Le Malien s'est fait exclure 18 minutes après son entrée en jeu pour un deuxième carton jaune. Et son club, donc de Benevento, s'est quand même imposé à San Siro. C'est un remarquable exploit.
À Milan.
Puisque c'est la première victoire de l'histoire du club. À l'extérieur, en Serie A.
Cheikh Diabaté est toujours le meilleur buteur de
Benevento. Ouais.
De Benevento, oui.
Messieurs, ça vous l'avez pas loupé, Arsène Wenger va quitter le club d'Arsenal en fin de saison après 22 ans de bons et loyaux services. Mais en Europe, qui est, après le technicien français, l'entraîneur qui est en place depuis le plus de temps?
Nicolas.
Oui.
Mourinho?
Non. Non, ça fait pas si longtemps qu'il est dans le même club. Hein, je
dans
parle.
Le même club. Qui est dans le même club?
Quentin. Diego Simeone.
Oh, c'est fort. C'est fort.
Depuis décembre 2011.
Exactement. Voilà, il est en poste depuis décembre 2011. C'est le coach argentin de l'Atlético Madrid. Dernière question, messieurs, pour l'honneur, en parlant d'Arsenal. Quel est le joueur français qui a le plus joué sur l'ère Wenger?
Nicolas.
Nicolas.
Vas-y.
J'aurais dit Thierry Henry.
Non. Thierry Henry est deuxième.
Vieira?
Oui, avec 276 matchs, Thierry Henry 258 et Koscielny, Laurent Koscielny complète le podium avec 237 matchs. Une victoire donc 6-7 à 4 de
ouais, non, ils étaient supérieurs.
Léo et Quentin.
Vira qui n'a pas de match, qui peut-être va postuler au poste de
On verra, on attend plusieurs noms.
Sollicité.
T'as les sources ou pas?
Ouais, une serveuse, aux États-Unis, ouais, qui m'a dit que Vieira était, vu qu'il est là-bas maintenant,
à New York City. Ouais.
Il passe beaucoup de temps dans ces pubs là, et on m'a dit que peut-être il était sollicité pour venir à Arsenal.
Mais on va vous envoyer aux États-Unis pour enquêter, Xavier. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette 21e émission d'Oxyfoot. Retrouvez l'émission sur le site de la radio espritoccitanie.fr, rubrique podcast, mais aussi sur notre site partenaire footpi.fr. Retrouvez-nous aussi sur le compte Twitter de l'émission @oxyfoot. Merci à mon équipe, Quentin, Léo et Xavier. Merci à Nicolas Bayot, notre invité. Merci aussi à Jean-Louis Arjac, en régie. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission d'Oxyfoot. Bonne semaine à tous.
À bientôt.
Salut.
Salut.
Au revoir. Instinct wins every time.